Il y a des gens qui ne veulent pas se mêler à l'Église, vous savez ça? Il y a des gens qui ont vécu des expériences traumatisantes, des blessures relationnelles, des choses qui ont laissé un goût amer. Ils préfèrent plus se mêler à nous que de risquer de revivre tout ça. Et je suis certain que vous avez soit déjà vécu ce genre de situation-là, soit que vous connaissez des gens qui ont vécu ces situations-là. J'en ai vécu, j'en ai connu, et je compatis profondément parce que, en fait, le défi avec l'Église, des fois, c'est nos attentes. On a des attentes très élevées parce que, justement, Jésus est au cœur de l'Église. L'Esprit habite dans la majorité des gens qui fréquentent l'Église. Et donc, tout devrait être parfait et harmonieux. Et ce n'est pas ce qu'on voit des fois dans la pratique. Il y en a qui vont dire, « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Michel. Moi, je suis de Yannick. » Il y en a qui vont dire, comme chez les Romains, « Moi, je suis keto. Moi, je suis vegan. » littéralement. « Moi, je suis calviniste. Moi, je suis arménien. » Puis d'autres, « J'aime les hymnes et d'autres, j'aime la musique contemporaine. »« Moi, je suis baptiste et moi, je suis charismatique. »« Je suis de MacArthur ou de Piper. » C'est intéressant, les convictions, quand même. Parce que quand tu as une conviction, on se construit une conviction. Des fois, dans notre cheminement chrétien, notre chemin de foi, on se fait des convictions. Des convictions nous conduisent à avoir des valeurs, des choses qui sont importantes. Et le problème, des fois, avec les valeurs, c'est que si on manque de maturité, on va se mélanger. Les valeurs deviennent pratiquement des articles de foi. Et c'est là que le bas blesse. Puis là, j'ai l'impression que mes valeurs sont la vérité et mes valeurs sont supérieures aux tiennes. Et si je n'ai pas de maturité, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir du mépris, de la condescendance, de la division, et c'est exactement ce qui se passe à l'Église de Corinthe. Mon ami Louis Bourque disait, et il le dit encore, et il me le dit encore il y a 2 semaines, « L'Église, c'est un miracle. » Je ne pense pas qu'il aurait pensé un jour qu'on le citerait. Mais c'est quand même vrai, il dit ça depuis des années. Imaginez, là, tu mets une bande de pêcheurs pardonnés dans un même bateau, s'il n'y a pas de maturité et d'amour, ça risque d'avoir du sabordage, de la division, ça va être un vrai champ de bataille, un nid de découragement. Le péché a fait des relations véritables et profondes, une vraie quête de pouvoir, que ce soit de Adam et Ève, déjà en partant, ils disent, la femme que tu mets à côté de moi, c'est elle, puis là, ça commence déjà à se tirailler Caïn et Abel. Tue son frère parce que finalement, il n'est pas content, parce que son offrande était mieux acceptée que la sienne. Et ça va comme ça, là. C'est l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est Churchill qui disait « L'histoire des hommes, c'est l'histoire des guerres. » Timothée 3:15. « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, plus précisément dans la famille de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ce n'est pas toujours rose fluo, ce n'est pas toujours rose tout court. Et c'est assez impressionnant de voir que plusieurs des églises qui n'avaient pas encore 10 ans d'existence, dont l'église de Corinthe, connaissaient déjà des problèmes majeurs, des divisions, des conflits, de la bisbille. Et quand on arrive à peu près à 50, 60 ans d'existence, on arrive avec les églises de l'Apocalypse, où là, Jésus dit « je vais te vomir ». C'est fou. Et c'est toutes les églises faisaient des bonnes choses, des choses correctes. Et ce matin, donc, on va justement voir comment construire plutôt que de détruire. Le problème, c'est une question de compétence. On manque des fois de compétence dans nos relations et on a cette tendance fâcheuse de vouloir créer des petits groupes parce qu'on se sent bien là-dedans puis que ça nous valorise. L'apôtre nous demande 3 compétences. On y va par exposition cette semaine. C'est dans l'ordre, en plus, du chapitre 3. Donc, on va passer à travers le chapitre 3 au complet, du verset 1 au dernier verset, verset 23. Et on va voir les 3 compétences qu'on voit là pour construire plutôt que de détruire. Résumé de l'exposé. Vivre en Église, c'est servir tous pour un et un pour tous. On le répète, tous pour un et un pour tous. Comme les mousquetaires. Tous pour un Hey boy! Il est où mon cadran? Tous pour un et un pour tous. Bon! Prions, on va lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on veut te dire que c'est toi et juste toi qu'on veut servir, mais tu connais notre cœur, tu connais notre chair, des fois notre tendance quand on est en face de distractions ou de choses qui nous rendent désagréables. On a cette tendance fâcheuse de vouloir ramener les choses à nous. Je te prie ce matin, à travers ta parole, à travers ce que tu vas nous montrer, de nous apprendre à être des disciples épanouis et matures qui vont être des agents de construction plutôt que de destruction. Merci Jésus pour ta patience envers nous. Merci pour le miracle qu'est l'Église. C'est toi le miracle, Seigneur. Et on veut te prier en ton nom, Jésus. Amen.
Bonjour, Mme Paradis, ça va bien? Bon matin. Alors, comme Pasteur Michel l'a bien dit, la lecture de ce matin va être dans 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 1 à 8, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens au chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car l'un dit, « Moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Les relations. On parle d'esprit et de chair, entre autres, aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on voit jamais, à un moment donné, il dit « examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi » aux Corinthiens, mais majoritairement, il ne met pas en doute que ces gens-là sont sauvés. Pourtant, c'est clair que même quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut marcher selon la chair. Fait que donc, on ne se fera pas d'illusions un matin, ça pourrait nous arriver à chacun de nous. Aussitôt qu'on met, je l'ai dit tantôt, aussitôt qu'on met des gens ensemble, à cause de la chair, à cause du péché, il y a une tension qui s'opère. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes peut-être la source de la tension, justement. La cause principale des divisions dans l'Église de Corinthe, c'était la chair. C'est-à-dire cette tendance qu'on a de vouloir suivre nos désirs égoïstes au lieu de marcher par l'Esprit. C'est une attitude charnelle qui se manifeste par quoi? Des jalousies, des disputes, un esprit de parti qui vont placer les hommes au centre de l'Église plutôt que Jésus. Galates avait un problème semblable, l'Église à Galates. Et je vais vous lire ce que Paul leur disait pour bien appuyer ce point-là. Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, que vous désiriez. » Donc, il y a une tension là, qui s'opère entre la chair et l'esprit. Elle est là, elle est constante, c'est un combat. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, or les œuvres de la chair sont évidentes, débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, acceptable et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu te plais à pratiquer ces choses, tu es en train d'exposer que finalement, tu n'as probablement pas compris l'Évangile. Mais si quand tu lèves, mettons, un débordement de la chair, et que là, ça t'attriste et que tu veux vraiment que Dieu te transforme, ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Le désir de sanctification est le meilleur signe. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est violent. C'est violent. On n'a pas dit qu'ils l'ont attaché. Il n'a pas dit qu'ils ont donné une valium. Ils l'ont crucifié. Crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça vient ensemble. Autrement dit, les bottines vont suivre les babines ou les actions vont aller avec les convictions. Ne cherchons pas une vaine gloire. Et j'aime le mot « vaine gloire » parce que c'est un peu l'essence de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Et si on laisse notre chair faire la job, c'est ça qui nous attend. Donc, tous pour un, et on sait c'est qui l'un, c'est Jésus. Tous pour un et un pour tous. Fait qu'on démarre les compétences. On travaille en compétences aujourd'hui, comme un bon diplôme. Première compétence, j'ai dit, bon, arrêtez de manger mou. Vous savez, tu sais, quand tu prends un trio Big Mac, tu le bases au blender, puis là, tu manges ça avec une paille, parce que tes capacités, tu n'es plus capable de retenir rien, les dents commencent à faire défaut. Première compétence, grandir en maturité. Comme j'ai dit, on y va par exposition, donc versets 1 à 8. Arrêtez de manger mou. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels. Il ne met pas en doute leur salut, je le répète. Mais il dit, les amis, ce n'est pas comme si je parlais à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Être charnel, c'est cette espèce d'engourdissement et d'obsession des désirs personnels. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui est au centre, dans le fond de l'univers, au centre de l'Église. Ça peut être mon confort aussi ou ma propre gloire. Quand je suis charnel, je ne peux pas supporter le sain enseignement. J'ai de la misère à comprendre, d'accepter et de mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Tout est centré sur moi et que moi. Donc, on va se poser trois questions pour pouvoir grandir. Hébreux 5, verset 13. « Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Quelqu'un qui est mature et qui est au steak, j'ai déjà entendu ça, « Donne-nous du steak à matin. » Ben, je dirais, si tu avais des dents, je te donnerais du steak, mais là, on dirait qu'il faut que tu te fasses un dentier, là. Il y a quelque chose, des fois, qui va dans ce sens-là. Il faut que tu exerces ton discernement pour ce qui est bien et ce qui est mal. Et des fois, on est juste là. Fait qu'on va se poser trois questions pour grandir plutôt que de détruire. C'est-à-dire plutôt être un élément d'unité dans l'Église. Quand il y a des désaccords, de la friction, de l'opposition par rapport à ce que moi, je pense. Et là, en général, on ne parle pas non plus de « Jésus n'est pas ressuscité » ou « Jésus n'est pas Dieu ». C'est souvent des affaires assez secondaires. Hein? Vous êtes d'accord? Première question, c'est l'Église de qui? Question banale, question simple, mais question importante. Chapitre 3, verset 3, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas en train de montrer que vous marchez comme le monde? La beauté de l'humanité, c'est toute la diversité. C'est vraiment merveilleux. L'Église, on est comme ça. Chacun a son caractère, ses attributs. Dieu ne veut pas faire de nous des petits clones de Jésus. Il veut plutôt qu'on soit des reflets de sa gloire. Fait que les affinités, c'est normal, c'est naturel. Il y en a qui s'entendent mieux avec un, puis d'autres avec un autre. Et puis le coaching, ça va dans ce sens-là aussi souvent. Mais on ne peut pas, à un moment donné, se mettre à créer des divisions et des lignes, puis des murs, puis des frontières dans l'Église. C'est une forme d'idolâtrie. Quand je me mets à mettre l'homme à la place de Dieu, ça devient une forme d'idolâtrie. L'important, c'est de discerner la différence entre Dieu et les hommes. J'ai raconté ça quand j'ai donné le cours Providence la semaine passée. Ma soif d'être pris en photo avec Don Carson, ceux qui étaient là, vous vous souvenez? C'était vraiment intéressant. Non, c'était pas intéressant. Mais je vais vous le dire pareil. Il y avait Don Carson qui était à Fabreville. Il y avait avec Sola. Et on était en pleine session. Et là, Don Carson, je veux faire prendre en photo avec lui. Don Carson. Qui connaît pas Don Carson ici, là? C'est un grand théologien. C'est un grand théologien pour notre époque. Donc, Michel photographie avec Don Carson. Là, François Picard s'est incrusté dans notre photo. J'étais un peu frustré. C'était juste François Picard. Et puis, plusieurs années plus tard, il n'y a pas longtemps, il y avait John Piper dans la même salle que moi. Et ceux qui le savent, John Piper, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, mais à distance. Fait que j'avais donc le goût d'aller le voir et dire bonjour. Mais finalement, j'ai réalisé que j'avais pas tant le goût que ça de me faire prendre en photo avec ou quoi que ce soit. Des fois, quand on a le goût d'être avec des vedettes, là, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils vont comme rayonner d'une gloire, puis cette gloire-là va déborder sur chacun de nous. On a comme l'impression qu'ils vont nous donner un petit morceau de leur je ne sais quoi qui fait qu'ils sont rendus famous. On est bizarre de même. Bien, c'est un peu le problème. Bon, je suis plus comme j'étais, là, tu vois, dit en passant. Je suis pas allé voir John Piper. Il y avait trop de monde autour, tu vois. J'ai l'éternité là, pour y parler. Fait que c'est pas si pire que ça quand même. Je prendrai une date dans 3500 ans, puis on aura du temps en masse pour jaser. Là, mais idolâtrer les hommes, c'est tellement dangereux, c'est tellement vain et inutile. Puis on le développe là, dans notre présentation aujourd'hui. Là. Donc, c'est l'Église de qui? C'est l'Église de Jésus. C'est pas l'Église de Paul, c'est pas l'Église d'Apollos, c'est pas l'Église de Don Carson, c'est pas l'Église de Yannick ou de Michel, c'est l'Église de Jésus. Jésus. Mais dans l'Église de Jésus, qui fait quoi? On est au verset 5 et 6. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen, c'est intéressant le moyen, c'est juste des outils. Donc, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. On doit accepter quelque part de nos limites, notre place dans l'Église, justement de voir les gens comme des serviteurs et moi-même comme un serviteur. On est des pierres vivantes que Dieu utilise dans son édifice. C'est lui qui fait le travail. Nous, on est complémentaires dans l'Église. Hein? On a chacun des dons. L'Esprit s'exprime d'une façon qui fait qu'ensemble, on est complémentaires. Et on est, et ça, j'insiste là-dessus, on est extrêmement dépendants les uns des autres par l'Esprit qui nous habite. Et ça, je trouve toujours ça triste d'avoir des gens qui abandonnent leur assemblée, qui néglige l'Assemblée, qui néglige le contact avec d'autres frères, d'autres sœurs, parce que, justement, c'est là que la colle prend, c'est là que Dieu fait croître. C'est un travail d'équipe, et nous, on devient le canal de Dieu pour son travail, mais c'est lui qui fait croître. Nous, on n'est pas grand-chose, finalement. Tu sais, le point là-dedans, qui fait quoi, bien, c'est pas moi vraiment. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce qui se passe ou de ce qui se produit quand je parle, quand je prêche ou un type. Non, c'est Dieu qui fait le travail. Donc, qui glorifier? C'est le verset 7 à 8. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est-à-dire de diriger la gloire au bon endroit. Le seul qui est quelque chose, c'est Jésus. Toujours les Galates. Galates 6, 3, 4 et 5. Attention, les égos sensibles, ça va donner un coup. Je vous dis tout de suite, si votre égo est un peu sensible, pourriez-vous laisser les portes fermées? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Je le répète, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est quelque chose. Mais c'est la parole de Dieu. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. On peut être fier de ce que Dieu fait au travers de nous. On peut être joyeux de ça. En fait, c'est le sens même des dons, le charisme. Le char vient d'un mot qui veut dire un cadeau qui procure de la joie. Donc, Dieu nous donne des dons. Et un des buts, c'est que notre joie soit parfaite. Et cette joie-là s'exécute quand on est au service les uns des autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on peut être fier, on peut être joyeux, mais pas compétitif. Créer des groupes, des sectes, ou des fois, c'est plus subtil que ça. Tu sais, t'aimes pas la façon qu'un fait les choses, ou t'aimes pas la manière qu'il s'habille, ou je sais pas trop. Puis là, tu te mets à mémérer. « Ouais, t'as-tu vu là, comment qui est, ou comment qu'elle est, ou comment... »« Oh, mais là, je suis pas d'accord. » C'est mal. C'est mal. On est en train d'essayer de voler la gloire de Dieu dans ce temps-là. Que ce soit par la doctrine, le style musical, le style de leadership, couleur, agencement de la salle. Je me souviens de la première prédication que j'ai donnée sans cravate. Ça avait fait un mini tollé. T'as mis où ton Saint-Esprit? Je l'ai laissé dans le char. C'était quasiment ça, là. Écoute, c'était même inconcevable dans ces belles années 2000, début 2000, que je prêche en jean avec des sneakers. Il fallait que ça soit chic. C'était la réalité à cette époque-là. C'était un manque de discernement, comme si c'était l'habit qui donnait l'inspiration. Je comprends l'idée du respect, mais de là en faire des groupes, des sectes et du jugement, l'idée, c'est de ne pas voler la gloire de Dieu. Parce que celui qui fait le travail, c'est Jésus. Donc, un pour tous. On continue. Donc, première compétence, grandir. Grandir. Deuxième compétence, construire. C'est le verset 9 à 15. Du sable au roc. Chacun son métier. Versets 9 et 10. Car, le pourquoi de tantôt, là. Pourquoi grandir? Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors là, il y a tout un... Il y a du stock là-dedans. Mais première chose que je remarque dans le passage, c'est que premièrement, le bâtiment, c'est nous. T'sais, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Chacun des dons, ses capacités distribuées par Dieu lui-même pour l'utilité commune, 1 Corinthiens 12, 6, on va voir ça plus tard dans la série. C'est selon nos capacités. Matthieu 25, 15, hein, il donne des talents à chacun selon ses capacités. Moi, je ne suis pas John Piper. Je me souviens de ça des fois, il y a des années, là. Je prêchais puis j'essayais de l'imiter, tu sais. Non. Jamais venu, personne n'est venu me voir après et dire « Ah, waouh, on aurait dit John Piper. » Ouais. Il y a quelque part, on doit faire confiance à Dieu dans sa providence et de respecter que chacun a des dons différents et que je ne peux pas avoir tous les dons. Je pense que, c'est personnel, là, j'ai l'impression que c'est comme ça que Dieu le veut pour qu'on soit interdépendants les uns avec les autres. Qu'on considère les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Comme ça, ben, moi, je n'ai pas tous les dons et toi, tu n'as pas tous les dons. Fait que tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Et quelque part, ben, on ne fait pas juste se respecter. Là. On sait, on a besoin l'un de l'autre. Donc, je dirais, aime et donne-toi à Jésus. Puis surtout, ben, fais ce que Dieu te demande. C'est juste simple. chacun son métier, ensuite un bon solage, si tu veux bien construire, puis éviter de détruire, hein, créer des divisions. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, on parle de l'Évangile. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça, c'est nos actions, nos œuvres. Tu sais, on en fait des affaires. Là. Tantôt, là, il va y avoir un amen, puis la petite musique va partir, Yannick va venir dire le mot de la fin, puis là, ça va se mélanger. Là. On va commencer à jaser. Puis là, on va s'encourager, on va s'aider. Il va y avoir plein de choses dirigées par l'Esprit qui vont se passer. Je suis même à considérer que le temps, ce moment-là où on ensemble partage, devrait être même inclus dans une liturgie, parce qu'il est aussi important. On ne peut pas juste comme dire, OK, j'ai reçu mon sermon, j'ai mes 3 tonnes, puis on s'en va. Non, on connecte ensemble. On connecte ensemble et on voit comment Dieu opère, on prie les uns pour les autres. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais des fois, du bois, du fin, du foin, du chaume. Si j'œuvre pour le glorifier, afin que tous voient l'amour et soient attirés vers lui, probablement que ça va ressembler à de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Si je fais tout en voulant plaire, paraître, attirer vers moi, m'auto-glorifier, tu sais, ficher tout le temps à ce que diriger les choses vers moi, probablement que ça va ressembler à du bois, du fin, du chaume. Je dirais la seule chose qui est importante, c'est Jésus, vouloir plaire, paraître, être Jésus, c'est-à-dire concentre-toi sur l'œuvre de Jésus, lis les évangiles, imite Jésus, pas John Piper, Jésus, revêt Jésus. Lis, si tu veux lis des livres sur Jésus, des audios sur Jésus, des podcasts sur Jésus, quelque chose qui va t'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres pour que Jésus soit glorifié. Et plonge dans l'Église pour partager avec les autres ce que Jésus est au travers de toi. C'est pas très compliqué. Ça, c'est les œuvres que tu bâtis sur le solage. Travail d'équipe, interdépendance, je dirais agis pour qu'il agisse. Puis, le verset 13-15 nous parle de salaire, car le jour la fera connaître. Tu sais, quand tu es un plombier, c'est la construction, ou un manœuvre, ou un électricien, on n'a pas tous le même salaire, et c'est pas tellement ça qui est important, c'est que je serais un peu inquiet si c'était mon plombier qui venait faire mon électricité. Juste de même. Ou le charpentier qui vient faire ma plomberie. Ça se peut que les tuyaux soient poqués par son marteau, là. Tu comprends? Chacun, le jour fera connaître tes œuvres, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vois-tu, bon, je vais vous expliquer quelque chose, parce que dans Romains 14, 10, on vient mettre une petite précision là-dessus. Justement, dans un contexte semblable, là, je parlais tantôt des kétos et des véganes, c'était un peu un problème qu'il y avait à Rome. Tu sais, moi, je mange juste des légumes, moi, je mange juste de la viande. C'est carrément ça, là. C'est juste qu'on a changé les noms 2000 ans plus tard. Là. Il dit, mais toi, donc, pourquoi tu juges ton frère? Ou pourquoi tu méprises ton frère? Tu sais, tu le considères comme plus bas que toi-même. « Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Cette idée-là de feu, c'est de tribunal, c'est pas qu'on va être jugé comme le livre de vie, mais on aura des comptes à rendre par rapport à ce que Dieu nous a donné et ce qu'on a donné en retour. C'est pas très compliqué à comprendre. Dans 1 Corinthiens, le thème, et là je vous donne un preview, c'est le thème central, c'est l'amour. C'est pas les problèmes. Ah, il y en a des problèmes. Mais le problème, c'est qu'ils ne mettent pas d'amour là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a 1 Corinthiens 13 qui, étonnamment, merci Seigneur, en plein milieu de l'épître. Il vient nous le séparer en deux, de les deux côtés. Aime. Aime et focus sur Jésus. Que chaque parole, chaque geste, chaque pensée, chaque don soit dans l'intention d'entendre dire « Wow! » Jésus est magnifique. Ou « Wow, Jésus est vraiment au milieu d'eux. Wow, je vois vraiment Jésus à travers toi. » Ça, c'est le plus beau compliment. À moins que tu le fakes, là, puis que tu veuilles vraiment attirer la gloire vers toi, l'important, ce qu'on veut, c'est tout va vers lui. Au bout de la ligne, l'idée en arrière de ça, c'est que quand on va arriver au ciel, tout ce qui va compter, c'est ce que lui a fait à travers nous. C'est tout ce qui a de la valeur. Parce qu'on l'a dit tantôt, la chair, l'esprit sont opposés entre eux. Il n'y a rien à faire avec la chair. Quand c'est la chair qui fait quelque chose, même dans l'Église, même dans une institution aussi glorieuse que l'Église, ben ça vaut rien. Il faut que ce soit l'esprit qui le fasse au travers toi. Donc, quand on va arriver au ciel, puis qu'on va remettre ses couronnes aux pieds de Jésus, en fait, on fait juste y remettre ce que lui a fait au travers de nous. La gloire va à lui, par lui, pour lui, en lui, juste lui, juste lui. On est satisfait qu'en lui. C'est simple, pas facile des fois à accepter, parce qu'on est des orgueilleux, on va être charnel des fois. Mais Jésus est magnifique. Tout ce qui ne sera pas dans cette intention va être brûlé. Tout est de lui, tout est pour lui, tout est par lui. Donc, tous pour un. Donc, grandir. On grandit, on lâche le manger mou, puis on grandit, on s'affermit, on devient mature. On construit plutôt que détruire. On apprend à être un bon manœuvre dans ce que Dieu m'a donné. Hein? C'est quoi mon corps de métier dans l'Église? Ben, tu vas le savoir à force d'être dans l'Église. Et il y a des nouvelles règles. Le code du bâtiment. Non, mais c'est vrai, quand tu es chrétien, toutes choses sont nouvelles. Tu passes du taudis au temple, c'est-à-dire saisir les nouvelles règles, c'est versets 16 à 23. La situation est complètement nouvelle. C'est plus la même affaire, pantoute. Écoute ça, 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Et là, il parle à du monde, tu devrais le savoir. C'est pour ça qu'il commence comme ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il me semble que je vous en ai parlé quand je suis passé chez vous. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Oui, j'en ai parlé beaucoup même. Voyons! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si Dieu est pour nous, ben c'est un peu ça l'idée, là, tu sais. Fait que on relaxe, là. On est dans une totale nouvelle situation. Tu sais, quand Jésus dit notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne. Que ma volonté soit faite. C'est comme si tu t'imagines, tu es en train de prier ça? Je veux que mon nom soit sanctifié. Je veux que mon règne vienne. Que ma volonté soit... Ben non! C'est lui que ton règne vienne. Ce que Dieu construit, c'est pas des projets, c'est pas des buildings. Et c'est bien utile, c'est bien cool. Hein? On a une super belle salle, mais c'est pas ça que Dieu veut construire ultimement. C'est des facilitateurs, c'est pas des réalisations, peu importe l'ampleur. Et vous avez déjà conté mon histoire de soirée de louange qui m'a traumatisé. Là. Ça a été une leçon dans ma vie, là, quand M. Hainaut me dit « c'est fou tout ce qu'on peut faire par la chair ». Vous vous rappelez de ça? Moi, je m'en rappelle, en tout cas. On a fait une super soirée de louange, c'était « ça coche », là, tu sais. La musique était « wow », puis franchement, là. On sentait la présence de Dieu avec les spots et tout. Là. Il n'y avait pas de boucan, mais c'était vraiment wow. Et là, je suis allé voir M. Hainaut, qui est un grand missionnaire. Et j'étais bien content qu'il soit là. Puis j'étais, je voulais ficher des compliments. Là. Ah, dis-moi que c'était bon, dis-moi que c'était bon. Et lui, il me dit, ah, c'est fou tout ce qu'on peut faire par la chair. Donc, c'est pas parce que ça fonctionne que Dieu l'approuve nécessairement. Je suis allé me coucher avec cette pensée-là. Et merci, Jésus. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon. J'ai dit, hey boy! J'ai réalisé qu'il y avait une belle soirée. Super. Même mes intentions étaient tout croches. Je voulais que ma gloire resplendisse. Je voulais qu'on dise, wow, Michel, c'était super! Michel, tu es merveilleux. Michel, tu es magnifique. Gloire à Michel! On doit changer nos méthodes d'évaluation. Parce que c'est Dieu qui construit le temple que nous sommes et dans lequel il a décidé d'habiter. Le vrai travail se fait en nous pour sa gloire. On est transformé de gloire en gloire à son image. C'est la seule et véritable source de satisfaction permanente qu'on a. Sa seule source de joie, la seule source de paix, Christ en nous, notre vrai trésor, l'espérance de la gloire. La semaine passée avec Basile, c'était ça, notre trésor. Notre trésor, il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est littéralement ça. Je dois apprendre, et c'est le processus de sanctification. C'est pas que le Saint-Esprit prend plus de place. C'est, il faut que j'apprenne à le laisser prendre plus de place. Parce que on peut être des petits coquins dans ce sens-là. Jésus veut pas des égos charismatiques, mais il veut des disciples qui l'adorent et qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nouvelle situation. On est le temple de Dieu. Nouvelle gestion, que nul ne s'abuse lui-même, versets 18 à 20, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un, et là c'est spécial, il y en a du sage là-dedans, mais il y a du sage qui vont, c'est comme un ping-pong de sages. Tu sais, on joue au ping-pong, là, c'est la balle se promène d'un bord puis de l'autre, mais là il y a des sages d'un bord, des sages de l'autre. Bon, il y a l'Église et il y a le monde qui est tout ce qui n'est pas l'Église. Fait que là, tu as comme deux bords de table de ping-pong, puis là ça se promène... Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages à leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Les standards qu'on connaît pour le succès sont à l'opposé de ceux de Dieu. Et je dis vraiment, aussi opposé que la chair peut être de l'esprit. Surtout dans l'Église. Que ce soit nos mesures de succès, je dis, là, d'habillement corporatif, on parle de sens politique. On a une époque où on décortique tout. Beaucoup d'informations, beaucoup de communication, beaucoup d'arguments de crédibilité dans le monde séculier. Hein? J'ai travaillé dans le monde séculier, j'ai eu une agence de com, puis on travaille pour un peu manipuler le monde, là, hein, pour qu'il choisisse moi. Hein, c'est un peu ça l'idée. Là. Dans l'Église, il doit être quelque chose de différent. Un exemple. Bon, l'Église est dans son pic. Quand je dis dans son pic, là, c'est comme, wow, ça va vraiment bien. On le sent, là, il faut envoyer des missionnaires. Il faut envoyer des missionnaires à travers le monde. Qui va-t-on choisir? La méthode est assez simple. Plutôt que d'aller avec des tests, avec des entrevues là, qui finissent plus, tout ça, on prie et on jeûne. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à bord, Paul et Barnabas. Sérieux, là? On prie et on jeûne. Pas moi qui le dis. On est en prison, injustement, parce qu'on a parlé de Jésus. Plutôt qu'on n'est pas les Barnabas, et plutôt que de commencer à faire une pétition, une sédition, essayer de faire valoir nos droits, on est dans la prison, puis savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On chante des cantiques. OK. Pierre est en prison, et plutôt que les disciples se mettent à essayer de faire aller leur espèce de petit, comment on dit, leur relation... Ah, il y en avait des Romains là-dedans qui disaient, oh, je connais un gars qui connaît un gars qui pourrait peut-être s'arranger avec le gardien pour le faire sortir. Tout le monde se met à genoux. Et on se met à prier. Prier. Pouf! Quitte à accepter l'injustice à mon égard, c'est pas les mêmes standards que ce qu'on connaît. C'est plus la même gestion. Si quelqu'un te frappe sa droite, tends-lui la gauche. Si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui aussi le manteau. Prie pour ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te persécutent. Vas-y à fond. Aime-les. Et quand Judas va venir te dire « Salut mon bon maître » puis qu'il va te donner un petit bec, tu lui dis « Mon ami ». Wow! On n'est plus dans le même système. On n'est plus dans le même système. En fait, tout tout ce qui pourrait exposer un semblant de gloire est rejeté. Ça va brûler, comme la paille dans le feu. Une paille bien sèche, parce qu'il n'y a pas de substance. Le contrôle, les manigances sont remplacés par l'humilité et la foi. Le feu va séparer le bon du mauvais. Dans l'Église, la seule chose qui compte, c'est Jésus. Jésus et Jésus et ce que son esprit fait, c'est tout. Donc, nouvelle situation, nouvelle gestion. Oui, c'est révolutionnaire et c'est déconcertant et un peu déstabilisant. C'est la réalité, mais les Écritures sont claires. On ne peut rien y faire, sinon de dire « wow, on va le tester ». Parce qu'il y a une nouvelle évaluation. En Corinthiens, on finit avec ça, 21 à 23, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car... » Écoutez ça. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est écrit. Ça, c'est quelque chose. Je le relisais là, cette semaine, je me disais, OK, qu'on s'énerve souvent pour rien. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Et il parle aux Corinthiens. Il pourrait dire la même chose à chacun de nous ici. Là. Tout est à vous. Soit Paul, c'est à vous. Soit Apollos, c'est à vous. Soit Céphas, c'est à vous. Soit le monde, et le monde est à vous. Soit la vie est à vous. La mort, pas de problème. Soit les choses présentes, ben oui, et même les choses à venir. Tout est à vous. Et vous, ben vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Jacques, il dit, d'où viennent les luttes, hein? D'où viennent les combats, les tiraillements? Ils viennent de vos désirs. Hein, qui sont inassouvis, là. Un désir, là, c'est quand je porte ma main vers quelque chose que je n'ai pas ou que je ne pense pas avoir, puis que j'aimerais avoir. Que j'ai l'impression que ça va me satisfaire. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que tout est à nous. Tout est à nous. Que ce soit pour les Éphésiens, les Colossiens, chaque fois que Paul prie pour une église, il s'arrange tout le temps pour placer quelque chose qui dit, en gros, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir la richesse de son appel, ce qui vient avec l'espérance, qu'on puisse voir, qu'on puisse le voir palpable, tout ce qu'on a en Jésus, éclaire notre intelligence, qu'on puisse capter toute cette richesse qu'on a en lui, dans nos rapports les uns avec les autres, dans le service dans l'Église. On n'a rien à y rechercher parce qu'on a déjà tout. Déjà tout. C'est fou pareil. Réalise que j'ai tout, ben j'ai plus besoin de rien. Et si j'ai plus besoin de rien, ben je m'énerve plus le poil des gens. C'est simple de même. On cherche le trésor de la valorisation. On pense que c'est nos réalisations, notre façon de faire, nos points de vue, nos valeurs qui vont finalement faire que je suis quelqu'un, et même dans l'Église. Quand finalement, tout ce qu'on fait, c'est lui qui le fait en nous. Tout ce qui vaut la peine d'être fait, c'est parce que c'est lui qui l'a fait en nous. On essaye d'élever notre identité à travers nos réalisations quand finalement, tout vient de lui et tout est pour lui. Le résultat est assez évident. Quand on essaye de ramener les choses à nous, bien, tristesse, division, larmes, souffrance, et on est loin de la joie et la paix que l'Évangile devrait nous procurer. J'ai tout en lui. J'ai plus besoin de rien. Donc, je peux servir en donnant et en donnant et en donnant et en donnant. Je deviens un canal, une grosse ose du Saint-Esprit. Il vous arrose tout d'amour. C'est simple de même. C'est fou pareil, hein? Mais c'est la beauté de l'Évangile. Les musiciens. Vous connaissez C.S. Lewis? Clive Staple ou Staple? Les anglophones, là. Staple? Staple comme une broche, là? Ah, OK. Donc, C.S. pour les intimes. C.S. Lewis. Écoute, on ressemble à un enfant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des petits châteaux, des petits pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau, dans un bidonville. Puis on refuse le séjour sur le bord de la mer parce qu'on n'arrive pas à le concevoir. On est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous par la puissance qui agit en nous. C'est fou, tout est à nous. Et puis là, nous autres, on est là puis on se contente de pas grand-chose. On se satisfait trop facilement à bon compte. On court après notre propre gloire. C'est malheureux. Tu sais, c'est un peu comme si tu essayais de faire un gâteau avec des œufs pourris. Même si tu mettais le plus beau glaçage, ça va puer quand même. Ce matin, on a parlé de construire. Comment faire face à l'immaturité pour l'unité, pour conduire à une unité qui va détruire toutes les idées de division. Et même dans le service, des fois, on a des bonnes intentions, mais on n'a peut-être pas les bonnes compétences. On a vu qu'on devait grandir en maturité, en reconnaissant que c'est son Église et que seul Jésus mérite toute gloire. On a vu comme compétence de construire, sans rechercher ma valeur, mais en exprimant la sienne au travers de ce que lui fait. C'est fou! On a vu aussi de saisir tout ce qui est nouveau dans l'Église. Je suis son temple. Wow! Cherche ta gloire, cherche ta satisfaction, cherche ton bonheur en lui seulement. C'est parce qu'on a tout qu'on n'a plus peur de rien perdre. Et ça, c'est merveilleux. Ça enlève un poids de fou. Je dois te poser, je te donne un petit devoir. Un petit devoir cette semaine. Hey, c'est pas un devoir facile. C'est pas un devoir facile. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Pose-toi une simple question. Qui est-ce que je désire glorifier? C'est pas une question facile, je te le dis. Si tu étais juste un obscur nobody toute ta vie, c'est-à-dire personne ne va retenir ton nom, il n'y aura même pas un nom d'écrit sur ta pierre tombale. Ça va être une pierre vierge. Je ne sais pas ce qui est là. Hein, tu sais, le soldat inconnu, là, mais le chrétien inconnu. C'est pas trop. Si tu étais juste un obscur nobody toute ta vie, mais c'est ce que Jésus veut pour toi, est-ce que ça te remplirait de joie? Vivre en Église, c'est servir tous pour un. Et un pour tous. Tous pour un. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, on veut que ton nom soit glorifié, élevé, exalté, au-dessus de tout. C'est toi qui est tout en tout. Tout se fait pour toi. Tout se fait par toi. Tout le reste est inutile. Aide-nous, Seigneur, nous, tes enfants, à discerner. Discerner notre cœur. Cette semaine, aide-nous à voir qui on essaie de glorifier, nous ou toi. Aide-nous, Seigneur, encourage-nous, montre-nous par ton esprit qui est là justement pour pointer vers le Fils, pour le glorifier, pour l'exalter. Que, Seigneur, cet esprit qui nous habite, cette espérance de ta gloire nous transforme de gloire en gloire vers ton visage, vers ce que tu es, et que finalement, on vive un abandon total et que, Seigneur, notre belle unité soit préservée et qu'on soit des chrétiens qui construisent plutôt qu'ils détruisent. Jésus, prends notre vie en entier. On veut ne se satisfaire qu'en toi seulement. Et on te prie, Seigneur, en ton nom. On a cette puissante conviction que tu aurais demandé la même chose. Seigneur, à notre place, prends-nous. Amen.